L'Esprit public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle édition de l'Esprit public, au cours de laquelle nous nous efforcerons d'éclairer certains éléments de l'actualité de la semaine écoulée. Nous le ferons avec Nicolas Bavrez, éditorialiste au Point et au Figaro, avec François Bujon de l'Étang, ambassadeur de France, et avec Lionel Zinsou, économiste franco-béninois. Nous commencerons par nous intéresser à la campagne présidentielle et à une sorte de bilan. Dimanche prochain aura lieu le premier tour des élections, après une campagne marquée par de nombreux rebondissements et par une large indécision des électeurs qui ne serait que 66% à être certains d'aller voter. Les primaires d'Europe Écologie Les Verts, des Républicains et de la Belle Alliance Populaire ont rebattu les cartes de cette campagne présidentielle et de l'offre politique en écartant au second tour les candidats donnés favoris, Cécile Duflot, Manuel Valls, Alain Juppé ou Nicolas Sarkozy, au profit de nouveaux venus, Yannick Jadot, Benoît Hamon et dans une moindre mesure François Fillon. Le président François Hollande a quant à lui renoncé à se présenter à sa propre succession pour la première fois dans l'histoire de la Ve République. L'investiture et la campagne du candidat Benoît Hamon ont provoqué une fracture au sein de son parti. Critiqué pour ses tentatives de rapprochement avec Jean-Luc Mélenchon, le programme du candidat du PS a également été jugé par certains des siens en rupture avec sa famille politique. Et alors que Yannick Jadot a retiré sa candidature au profit de Benoît Hamon, sans bénéfice tangible pour ce dernier, le dialogue avec Jean-Luc Mélenchon n'a pas abouti, faute notamment d'un accord sur l'Europe. De nombreux socialistes et élus de tous horizons ont appelé à rejoindre le fondateur d'En Marche, tandis que récemment, plus d'une centaine de parlementaires socialistes ont appelé à voter pour Benoît Hamon. En février, le président du MoDem, François Bayrou, a renoncé à sa candidature au profit d'Emmanuel Macron, pour qui Manuel Valls a annoncé en mars qu'il voterait. Selon une enquête Ipsos publiée mardi dernier, Emmanuel Macron serait crédité de 23% des intentions de vote au premier tour et élu président face à Marine Le Pen au second. Le transfert de voix de la frange droite des électeurs du PS en faveur du candidat d'En Marche pèse sur le candidat socialiste, crédité de seulement 9% des intentions de vote, tout comme le succès de la campagne de Jean-Luc Mélenchon qui talonne François Fillon dans les sondages avec 18,5%. La campagne présidentielle a également été marquée par les scandales financiers des assistants parlementaires du Front National et la mise en examen de François Fillon. Alors que Marine Le Pen a refusé de se rendre à la convocation des juges, le candidat des Républicains a dénoncé le tribunal médiatique et le pouvoir des juges responsables du complot dont il s'estime être victime. La division au sein des Républicains rend aujourd'hui l'avenir du parti incertain, comme d'ailleurs il en est ainsi du Parti socialiste. Alors que François Fillon est crédité de 18% des intentions de vote et donné absent du second tour, Marine Le Pen reste stable dans les sondages avec 22,5% des voix. Sur cette question, Lionel Zinsou.
Oui, alors je suis frappé par trois choses. Il semble que les Français n'aiment pas cette campagne. Il semble qu'ils soient, pour les deux tiers, dans une situation d'avoir de la répulsion pour cette campagne présidentielle. Alors c'est un petit peu étonnant parce que si on prend un regard un petit peu en distance, étranger, c'est une campagne qui passionne le monde entier. C'est une campagne où on voit des facteurs de renouvellement étonnants. C'est une première campagne numérique réussie en France, avec même un candidat qui a inventé un mouvement numérique il y a un an, qui semble plus efficace en termes de centaines ou de milliers de réunions publiques par semaine que des partis traditionnels. On voit une activité sur les sites des candidats qui est passionnante. On peut, je crois, pour la première fois aller acheter sur les boutiques des candidats des t-shirts qui sont à peu près tous faits Made in France, sauf d'ailleurs sur le site de Marine Le Pen où ils sont Made in Europe. C'est en fait le seul qui est cette exception avec Emmanuel Macron où je crois qu'il y en a qui sont tissés en Espagne et imprimés en France. Il y a un dialogue avec la population sur des choses essentielles. pour 9 euros, vous aurez une collection de mugs assez impressionnante. Enfin, au fond, c'était une campagne, si on y ajoute les hologrammes et maintenant les hologrammes multiples, simultanés, qui vont venir le 18 avril enrichir les innovations, c'est quand même une campagne intéressante. Moi, je crois que les gens ont peur du résultat. Alors, à l'étranger, c'est suivi passionnément par les Britanniques. En plus, ils ont très exposé une citoyenne galloise, par les Américains. En Afrique, c'est une passion absolue. C'est difficile, dans un dîner en ville d'une capitale africaine, de ne pas parler d'abord de ce qui se passe en France. C'est suivi avec passion, parce qu'il y a quand même des enjeux sérieux très, très importants de politique étrangère, de prise de position économique. Et puis alors, dans les milieux financiers, ça commence à être regardé avec panique. Parce que si on avait un deuxième tour entre deux populismes qui excluent l'Europe, et si on faisait que l'euro disparaisse à cette occasion, là, les financiers qualifient cela un peu partout dans le monde de risque politique le plus important à la minute dans le monde. Parce que un effondrement de l'euro a des conséquences de crise financière mondiale, à la limite, plus importante que ce qu'on a vu récemment. Donc je vois un contraste fort entre une passion mondiale et des angoisses françaises et une insatisfaction française. Cela dit, l'incertitude de 3 ou 4 candidats susceptibles d'être au second tour, on a toujours vécu ça. Les écarts entre Jacques Chirac et Édouard Balladur étaient en fin de compte très faibles. L'écart entre Lionel Jospin et Jean-Marie Le Pen et le résultat surprise, au fond, était effectivement dans un mouchoir de poche. Donc on n'est pas, en termes d'objectivité, du suspense, on n'est pas dans une situation qui devrait être beaucoup plus anxiogène que par le passé. La deuxième chose qui me frappe, c'est que les primaires, on pourra en juger probablement à la fin. Notamment si François Fillon est élu, on dira rétrospectivement que les primaires ont été assez efficaces, mais les primaires sont quand même une énigme importante. Est-ce que c'est vraiment de la démocratie représentative que d'avoir une population discrétionnaire qui vient faire un tout premier tour et ensuite une élection avec 2 tours, donc 3 tours d'élection, ou est-ce que ça sélectionne gens un peu plus partisans qui ont du mal ensuite à faire l'unité de leur propre parti? Donc il y a quand même une énigme, mais il faut quand même attendre le résultat pour savoir si effectivement au second tour il n'y a que des personnes qui sont exclues, qui se sont exclues d'elles-mêmes de participer aux primaires. Donc il y a une énigme pour les politologues qui est assez importante.
Nicolas Bavrez.
Le paradoxe que vient de décrire Lionel Zinsou, je crois qu'on peut l'expliquer assez aisément par l'écart entre l'enjeu de cette élection qui est absolument décisif et le niveau de la campagne qui est extrêmement médiocre. L'enjeu, il est décisif pour la France parce que c'est la dernière occasion de la réformer de manière démocratique et pacifique. La crise française sous François Hollande s'est accélérée de manière phénoménale. C'est vrai sur le plan économique et social, c'est vrai sur le plan de la dégradation de la cohésion nationale et de la paix civile, et c'est vrai également et surtout, on en a la traduction concrète, sur le plan politique et sur le plan de l'influence de la France dans le monde. Comme il vient d'être dit, elle était aussi décisive, cette élection, pour l'Union européenne et pour la monnaie unique, parce qu'on est après le Brexit et parce que certains candidats proposent explicitement, de facto ou en l'assumant pleinement, la sortie de la zone euro qui implique un défaut français à terme et donc un choc sur une dette de 2160 milliards d'euros. Je rappelle que la Grèce, qui pollue depuis maintenant 8 ans la vie de la zone euro, c'est une dette limitée à 320 milliards d'euros, et que le krach de Lehman, c'était 600 milliards de dollars. Donc on voit qu'un impact, une attaque sur la dette française provoquerait effectivement une crise financière mondiale. Et puis un troisième enjeu décisif, c'est qu'après le Brexit, après l'élection de Donald Trump, tout le monde attend que la France soit le troisième domino à tomber entre les mains des populistes. Et de fait, suivant que ça se passe ou non, c'est un coup d'accélération formidable à la dégradation et à l'affaiblissement des démocraties dans le monde, ou au contraire, un signal de ressaisissement. Donc voilà les enjeux, ils sont majeurs, et c'est vrai qu'en face, on a une campagne qui ne s'est jamais nouée, une campagne qui a été placée sous le signe de l'émotion, sous le signe de la violence des mots et des attaques, et sous le signe aussi d'un mieux-disant démagogique, avec des propositions extravagantes et ruineuses, entre les taxations des robots, des importations, la suppression de fait de la taxe d'habitation, le droit opposable à l'emploi, le revenu universel, maintenant la sortie de l'Europe pour adhérer à l'alliance bolivarienne. Enfin, c'est extravagant. Et donc, voilà pourquoi, et là je ne suis pas d'accord, voilà pourquoi nous arrivons à une situation qui est inédite. Vous l'avez rappelé, elle est inédite parce que le président en place et en charge n'a pas été en état de se représenter, ce qui acte un échec inouï et sans précédent depuis 1958. C'est une élection à 8 tours avec les primaires dont on voit qu'elle pose plus de problèmes qu'elle n'en règle. Et c'est surtout une élection qui débouche sur un affrontement sans précédent entre les populistes et les réformistes. Nous avons une quadrangulaire, nous n'avons jamais eu une quadrangulaire à ce stade de l'élection, avec 4 candidats dans la zone d'incertitude des sondages, dont un seul est le représentant d'un des grands partis du gouvernement, François Fillon, et les 3 autres étant en dehors de ces partis. C'est une situation qui n'a pas de précédent, et par l'incertitude, et par la configuration, qu'elle présente. On avait eu avant des configurations à 3, et il est vrai que Jean-Marie Le Pen s'était imposé dans la course en 2002. Nous avions eu également des affrontements au sein de la droite, par exemple, avec Chirac Balladur. Nous n'avons jamais eu une configuration à 4, avec les 4 candidats dans cette marge d'incertitude des sondages à une semaine du premier tour, et par ailleurs, comme il a été dit, avec un tiers des Français qui ne savent pas s'ils vont voter, et 40% de ceux qui restent indécis. Donc, c'est bien la marque de cette dégradation sans précédent, de cette désintégration du système et de la classe politique française.
François Bujon de l'Étang.
Et je suis très largement d'accord avec le diagnostic qui vient d'être posé par Nicolas Bavrèze. J'y ajoute en outre l'extrême longueur de la campagne, puisqu'elle a quand même débuté pratiquement à l'été dernier avec les primaires qui en faisaient obligation. Et vous avez dit huit tours, une campagne à 8 tours. C'est vrai, il y a maintenant un millefeuille électoral qui est le produit de l'introduction des primaires dans un système électoral qui, jusqu'à présent, leur était tout à fait étranger. C'est ce qui crée aussi beaucoup chez les Français un effet de lassitude ou un effet de saturation, et cette impression qui domine que la densité du débat d'idées est inversement proportionnelle à la longueur du débat. Alors, une fois qu'on a dit cela, il y a énormément de singularités, en effet, dans cette campagne. Beaucoup ont été mentionnés. Je relève, pour revenir sur une chose qu'a dite Lionel Zinzou au début de cette discussion, la contradiction, en effet, entre l'intérêt que déclarent manifester les Français pour la campagne présidentielle, puisque 79% des Français se déclarent, dans un récent sondage, intéressés par la campagne, et en même temps les expressions de rejet ou de déception à l'égard du contenu de la campagne, puisque là on trouve 67% des Français qui disent n'éprouver que déception, dégoût ou colère devant la campagne, 64% qui disent que la campagne ne leur a pas appris grand-chose, et 66% seulement qui disent avoir l'intention de voter. Donc il y a une contradiction très forte. Je pense que l'enjeu tel que Nicolas Bavrèze l'a défini est bien mesuré, mais que le contenu de la campagne elle-même, qui très largement a été dominé soit par les affaires avec la saga François Fillon, soit par la comparaison de mesures détaillées portant sur la protection sociale, sur la fiscalité, etc., etc., mais ne portant jamais sur une vision globale du rôle de la France dans le monde, ou de l'avenir de la société française, ou du rôle de la France et de l'Europe, l'Europe très absente d'ailleurs de ce débat européen, la contradiction est tout à fait criante. Alors on a tout dit sur l'extraordinaire renouvellement de ce qu'on appellerait dans un tournoi de tennis les têtes de série, qui effectivement sont toutes tombées au premier ou au deuxième tour, pour poursuivre cette analogie. Le jeu de qui fait que tout le monde est tombé et que M. Hollande peut dire, comme il le dit dans une interview récente, qu'il craint que ce soit la dernière qui ne soit pas tombée, qui finisse par l'emporter. emporter sur la déroute des partis traditionnels. Alors ça, c'est quand même une des caractéristiques dominantes de cette campagne. C'est l'effondrement complet du Parti socialiste, dont le candidat vainqueur des primaires est en dessous de 10% aujourd'hui et dont la plupart des votants sont partis dans d'autres camps. Et puis, chez les Républicains, c'est une situation tout à fait différente, mais une situation également peu enviable que de considérer la perspective d'avoir un candidat qui peut ne pas atteindre le deuxième tour. C'est également sans précédent. C'est la fin, au fond, de la bipolarisation qui a marqué toute la vie politique de la Ve République depuis 1958, entre droite et gauche. Le débat aujourd'hui n'est plus entre droite et gauche. Il y a en effet 4-5 candidats qui s'affrontent pour accéder au second tour, mais ce n'est plus un débat droite-gauche. Il y a un débat plutôt, je pense, qui est en train de prendre la place et qui s'est axé autour du populisme, finalement. Et c'est un débat entre des Français plutôt réformistes, ouverts sur le monde, prêts à jouer le jeu de la globalisation, de l'ouverture des frontières, de l'Europe, de tout ce que vous voudrez, et une autre partie des Français qui, au contraire, veulent le repli sur soi, la fermeture des frontières, les limites à l'immigration, etc. etc.
Et donc, c'est là où on a un point de comparaison avec ce qui s'est passé avec le Brexit ou l'élection de Donald Trump.
Bien sûr, c'est tout à fait cela. Et quand vous dites que beaucoup dans le monde attendent de voir si le troisième domino va tomber, c'est vrai, c'est le même point de clivage qui a divisé les Américains et qui a divisé les Britanniques. Donc c'est quand même le point majeur, je crois, qu'il faut en retirer, avec l'autre caractéristique nouvelle de la société politique française telle qu'elle va émerger de cette campagne, qui est une formidable fragmentation des forces politiques qui ne sont plus du tout regroupées comme l'aurait voulu le système électoral et le jeu des institutions de la Ve République entre deux camps opposés. La triangulation avec l'apparition du Front National a été bien entendu le premier coup donné à ce système. Aujourd'hui, la fragmentation et l'explosion générale est la nouvelle caractéristique.
Lionel Zinsou.
Moi, je partage vos analyses, sauf sur un point qui vous est commun, c'est-à-dire vous décrivez beaucoup de nouveautés, des recompositions importantes, un nouveau clivage qui me paraît dire beaucoup plus pertinent, de savoir si on est parmi les vainqueurs ou les perdants de la mondialisation. C'est une vraie question. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour diminuer le nombre des perdants, faire en sorte qu'il y ait inclusion dans la nouvelle économie de population qui aujourd'hui se sent exclue. C'est un clivage beaucoup plus intéressant qu'un clivage droite-gauche qui serait, au fond, la pérennité d'une grave question qu'on trouve d'ailleurs dans certains programmes légèrement archaïques qui sont présentés, que Nicolas Bavrès a bien caractérisé en parlant de révolution bolivarienne. C'est quand même mieux et plus intéressant qu'un débat de savoir si on nationalise les entreprises ou bien si on leur donne plus de liberté en respectant des marqueurs anciens de la droite et de la gauche. C'est un débat beaucoup plus légitime. Donc, oui, c'est très nouveau, c'est très sans précédent, mais tout ça est très bien parce que ça permet un vrai renouvellement. Là, on voit apparaître des candidats de la société civile aux législatives qu'on recrute par appel de candidature sur Internet, enfin avec une idée de renouvellement de la classe politique. Oui, c'est la fin de la bipolarisation créée à partir de 1980, mais est-ce qu'on va regretter cette bipolarisation ou s'il ne faut pas rentrer dans quelque chose d'autre? Il y a chez les jeunes des mouvements d'opinion qui ont été assez forts pendant cette campagne. Ils étaient plutôt le péniste en début de campagne, c'est plus équilibré, les voici plutôt chez Monsieur Emmanuel Macron. Bon, bah, très bien, ça fait des éléments de nouveauté radicale, mais le fait que ça soit sans précédent, c'est, bah, oui, nous sommes dans une situation du pays qui est sans précédent, avec aussi des enjeux internationaux sans précédent. On a besoin du message universel de la France. La France est en guerre contre le terrorisme, elle est engagée sur plus de terrains d'opérations que jamais depuis la Seconde Guerre mondiale. Elle a donc des défis considérables. Bon, tous ces débats-là, si vous voulez, sont des débats nouveaux. Donc il est naturel que l'offre politique soit nouvelle. Le fait qu'on ne soit pas absolument certain que ce soit un candidat pour l'Europe, pour l'euro,
qui l'emporte. Il y a quand même deux grands candidats qui sont quand même les plus probables et qui sont quand même dans la défense de l'intégrité de la monnaie européenne et de l'Union européenne. Bon, si vous voulez, c'est un facteur qui devrait faire que tous les intellectuels, plutôt que se plaindre de la médiocrité de la campagne, insistent beaucoup sur l'enjeu européen. Moi, je suis allé au meeting d'un candidat où on voit des dizaines de milliers de personnes, parce que ça aussi, c'est complètement nouveau. Il y a 100 000 personnes à la République, il y en a des dizaines de milliers à Bercy, il y a quand même un effet de ferveur qui fait que cette campagne, elle n'est pas médiocre par la participation populaire. Moi, il se trouve que j'ai eu une expérience personnelle de campagne électorale en Afrique, où j'étais frappé par le fait qu'on ne pouvait pas faire les préaux d'école. Parce que dans la nouvelle démocratie, la jeune démocratie africaine, on fait seulement les stades, parce que les préaux d'école, c'est trop petit. Bon, maintenant, en France, on fait les stades, parce que les préaux d'école, c'est trop petit. Donc, moi, je vois une ferveur, un besoin de renouveau. Oui, c'est anxiogène pour des gens qui aimaient le système, en connaissaient les codes, mais enfin, ça correspond à un renouvellement des personnes, éventuellement, on va le voir peut-être de l'âge des candidats, et l'intrusion d'idées nouvelles qui sont pas toutes la révolution bolivarienne, le revenu universel, ça mérite réflexion. Il y a beaucoup de pays où il y a une vraie réflexion. C'est pas seulement une mesure ruineuse, c'est une mesure de politique économique qui existe dans des pays très honorables et très sages. Peut-être que ça a été mal présenté, peut-être, je n'en sais rien, mais c'était normal que ça rentre dans le débat et que ça captive. Donc tout ce qui est nouveau et qui est peut-être anxiogène n'est pas du tout le signe d'un monde qui nous abandonne. Non, c'est le signe d'une jeunesse, d'une vitalité qui se voit bien dans la participation populaire à cette campagne qui est très forte.
Tout ce qui vient d'être dit est exact, c'est-à-dire que les moments de plus grand risque sont aussi des moments de plus grande chance. Simplement, Lionel Zinsou part de l'idée que les réformistes vont nécessairement gagner. Or, aujourd'hui, on ne peut absolument pas dire ça. Et donc, il est bien vrai que les choses peuvent tourner de manière positive, c'est-à-dire que, oui, il y a deux candidats réformistes sur les quatre principaux, que ceux-là ont une vraie chance de gagner, et qu'on peut arriver à finalement réunir, vaille que vaille, les conditions pour moderniser le pays, c'est-à-dire avoir du leadership politique, un mandat des citoyens, une majorité législative, et puis une méthode de transformation du pays à peu près crédible. Mais ce qui est impressionnant de voir, c'est que à une semaine, en tout cas à une semaine de l'élection, du premier tour de l'élection, tout ça n'a pas du tout émergé. Donc comment est-ce que ça peut se construire ? C'est vrai qu'il y a une chance de le faire, mais ça suppose que finalement, les citoyens fassent le travail qui n'a pas été fait par les candidats et que autant la campagne a été médiocre et placée sous le signe de l'émotion, que ce soit les Français qui impose un vote de raison, ça c'est la première condition, et ensuite que on arrive à recomposer effectivement une espèce d'alliance des réformistes qui donne un socle politique et sociologique pour réformer le pays. Simplement, ce travail était normalement le travail de cette élection. Ce que je constate, c'est que on reste à l'heure actuelle dans la phase décomposition et pas dans la phase recomposition. Donc, est-ce que ça va pouvoir se faire d'ici à la fin de ce fameux cycle qui sera marqué par le deuxième tour des législatives, souhaitons-le, mais c'est une entreprise qui n'est pas encore réalisée et qui n'est pas mince.
Mais Nicolas, tout ça a émergé dans les chiffres. Et c'est un des facteurs d'anxiété.
Les jeunes, pour l'instant, ils votent Front National, par exemple. Quand on parle de la jeunesse, il y a quand même des choses un peu désagréables.
Ils votent Front National ou France Insoumise.
L'écart entre les deux candidats les plus vraisemblables pour le second tour et les autres, dans votre fameuse quadrangulation, il est extrêmement net. Et par conséquent, si ces deux-là arrivent au second tour, on dira que ça faisait des semaines qu'on savait que ça se passerait entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Le fait nouveau qui est facteur d'anxiété pour vous, c'est que vous ne croyez plus aux sondages. C'est-à-dire, estimant qu'ils se sont trompés en Grande-Bretagne, trompés aux États-Unis, trompés pour M. Fillon et trompés pour M. Benoît Hamon, vous ne croyez pas que Mme Le Pen et M. Macron sont quelque part autour de 25% et les autres sont décrochés de 5 points, très au-delà de la marge d'erreur. Donc, il y a un facteur qui est gênant, c'est que Il est possible que les élites soient légèrement coupées du sentiment populaire, et vous avez peut-être une espèce de peur de la colère populaire qui se cacherait des sondeurs, et vous ne croyez plus aux sondages alors qu'ils ont été jusque-là très fiables pour les présidentielles françaises, pas forcément pour les primaires. Donc vous avez un facteur d'anxiété qui est que beaucoup de gens, les journalistes, les analystes, les commentateurs que nous sommes, ont peur de ne pas savoir ce que pense le peuple et d'avoir perdu la confiance dans l'instrument de mesure. Et donc, vous avez un facteur d'anxiété exogène.
J'assume pour le coup qui paraît raisonnable compte tenu de la situation.
Oui. Mais c'est peut-être raisonnable, mais pour l'instant, regardez les sondages. Supposez, surprise, parmi les surprises, que M. Emmanuel Macron soit élu président de la République, on se retournera et on dira, mais attendez, c'était depuis 12 semaines à 60-40 dans les résultats, tous les mêmes, des sondages. Donc, moi, je crois qu'il y a une qualité des sondages français, une convergence qui est bien meilleure et non comparable à ce qu'on a vu en Grande-Bretagne et aux États-Unis depuis longtemps. Donc, n'ayez pas si peur. Les phénomènes ont émergé. Il y a un réformiste sur deux, et peut-être même le deuxième, qui ont des chances, au fond, significatives. Et on dira que tout ça avait été prévu.
François Bujon de l'Étang.
Nous verrons. De toute façon, c'est vrai que la réputation des sondeurs français n'est pas la même que celle des sondeurs britanniques. Ça, c'est incontestable. Et il faut d'ailleurs sans doute s'en réjouir. Mais j'ai du mal à réconcilier quand même certains des chiffres qui sortent de ces sondages avec l'optimisme dont Lionel Zinzou fait preuve sur la ferveur populaire en faveur de ces élections. S'il y avait une telle ferveur, pourquoi est-ce que le taux d'abstention, les intentions de vote abstentionnistes, dirais-je, sont-elles les plus élevés de l'histoire? Je ne comprends pas très bien cette contradiction.
Pas l'hypothèse qu'il y a plusieurs bons candidats et que les gens ont une indécision entre
non,
plusieurs...
Non, c'est pas la décision de dire j'ai l'intention de m'abstenir.
Non, mais ce n'est pas simplement une boutade. Il y a une offre de gauche qui est quand même très nouvelle. Vous avez une vraie offre très intéressante servie par un grand tribun qui est quand même une offre de la gauche plurielle, y compris les communistes, qui est une réminiscence et même une nostalgie pour beaucoup d'électeurs. Puis vous avez enfin l'apparition d'une espèce de vraie force centrale, social-démocrate, très réformiste et très libérale avec Emmanuel Macron. Et puis vous avez le Parti Socialiste qui n'est pas à son premier effondrement. Alors Benoît Hamon n'était pas né probablement ou à peine quand Monsieur Defferre faisait 5%. Mmh. Mais je veux dire, c'est arrivé ce genre de trou d'air. Et pourtant, il y avait Monsieur Pierre Mendès France dans le ticket. Enfin, c'était quand même une offre honorable. Là, vous avez quand même une offre de gauche qui est extrêmement intéressante. Et je comprends parfaitement quelqu'un dans cette tradition qui est un petit peu pris par ses divers courants dans son histoire personnelle, hésiter en se disant « j'ai trois bonnes solutions ». Et si vous êtes à droite, je ne pense pas que l'offre de François Fillon, de Marine Le Pen et de M. Dupont-Aignan soit une offre sans intérêt. Je pense que c'est une offre qui mérite hésitation, puisque pour une fois, on a des courants de droite très différenciés. Mais si vous êtes un homme de droite, avec des valeurs de droite, je comprends parfaitement que vous puissiez hésiter. Et pendant la campagne, vous avez hésité. Vous avez eu des moments où M. Fillon était extraordinaire en débat, des moments où Mme Le Pen dominait, des moments où M. Dupont-Aignan se redressait. Pourquoi faire l'hypothèse que l'indécision, c'est le choix entre de très mauvaises solutions?
Non, mais
moi, je vais aller dans le Lys-de-Loire en me disant, il me semble qu'il y a le choix entre plusieurs bonnes solutions.
On confond l'indécision et la volonté d'abstention. Nous en avons parlé dimanche dernier. Ça fait partie des notions que nous avons essayé de tirer au clair. L'indécision, elle peut se comprendre et elle peut aller jusqu'à l'isoloir. Que par contre, les gens déclarent qu'ils ont l'intention de s'abstenir et qu'ils déclarent en même temps, comme ils le font, j'ai cité des chiffres tout à l'heure, qu'ils sont déçus par la campagne ou qu'ils trouvent que celle-ci n'a pas traité des vrais sujets, ça, ce sont quand même des faits qui ne sont pas de l'indécision, qui sont un rejet. Quant aux jeunes, ils ont tendance à se mobiliser pour les extrêmes. C'est de leur âge, me direz-vous. Ça s'est toujours vu, tous les temps, bien sûr. Mais pour l'instant, ce que l'on a vu comme enthousiasme, en réalité, chez les jeunes, ce sont les deux extrêmes. C'est Marine Le Pen, c'est Mélenchon, et, excusez-moi, mais la révolution bolivarienne, c'est pas vraiment nouveau. C'est peut-être nouveau en France et sous nos latitudes, mais enfin, on l'a éprouvé sous d'autres latitudes et on en a vu les résultats qui sont assez désastreux. J'ajoute d'ailleurs que si M. Chavez a réussi à ruiner un pays qui a les deuxièmes réserves de pétrole du monde libre, M. Mélenchon arrivera probablement à battre ce record de rapidité puisque nous n'avons pas de pétrole. Mais il faut quand même rappeler deux ou trois choses, je crois.
Votre optimisme corps dans l'esprit des Français. Il faudrait faire un sondage.
Votre optimisme est sympathique, mais je le trouve quand même un petit peu angélique. Il reste que beaucoup de choses ont modifié profondément la structure de la campagne. D'abord, le quinquennat en lui-même est un élément en soi, et la présidentialisation du régime qui en résulte en est un autre, puisque je suis frappé que dans les proposition des candidats, vous avez souvent des catalogues de mesures qui relèveraient beaucoup plus d'un Premier ministre ou d'un gouvernement que d'un président de la République. Lorsque les institutions de la Ve République ont été créées, l'idée était que le président de la République soit un arbitre de la vie politique et que le gouvernement détermine et conduise la politique de la nation. Or, quand vous voyez le catalogue des mesures qui sont débattues par les uns et par les autres, vous voyez qu'on en est à un degré de détail qui n'est plus du tout celui qu'on envisageait pour la présidentielle. Et puis il y a les primaires, j'insiste là-dessus quand même, parce que les primaires, nous en avons parlé la semaine dernière, mais j'y reviens, les primaires à l'intérieur des grands partis de gouvernement ont traité des clivages idéologiques qui sont au sein de ces partis. Et du coup, ce débat-là, ayant été mené dans les primaires, ne revient plus dans le débat général de la campagne, ce qui lui donne une coloration particulière et ce qui lui enlève une partie de sa substance.
Je vous remercie. Rendez-vous dans 15 jours pour savoir si les prévisions, quand elles concernent l'avenir, sont toujours aussi dangereuses à faire. Je vous propose que nous nous intéressions maintenant à un autre sujet, qui est celui de la situation des chrétiens d'Orient, et pas seulement parce que nous sommes le dimanche de Pâques, mais aussi parce que la communauté copte d'Égypte vient d'être visée par deux attentats perpétrés contre des églises à Tanta et à Alexandrie. Ces agressions revendiquées par l'État islamique ont fait 44 morts et une centaine de blessés. Ce sont les dernières d'une série de violences contre les Coptes qui représentent environ 10% de la population égyptienne, avec une communauté estimée à 14 millions de fidèles. Le président Sissi a immédiatement décrété l'état d'urgence sur tout le territoire, alors que l'armée lutte déjà contre une branche de l'État islamique implantée dans le Sinaï. Le pape François a annoncé qu'il maintenait sa visite en Égypte, prévue à la fin du mois. Il rencontrera le président Sissi, l'imam de la mosquée Al-Azhar, Ahmed El-Tayeb, et le primat copte Tavadros II. Ces attentats s'inscrivent dans un contexte plus large de menaces sur la présence chrétienne au sein du monde arabo-musulman. Les communautés d'Irak ne comptent aujourd'hui plus que 300 000 fidèles, alors qu'ils étaient encore 1 million en 2003. L'effondrement du régime laïque de Saddam Hussein et l'expansion de l'État islamique a contraint à l'exil cette population, principalement vers le Kurdistan, où elle bénéficie du soutien d'ONG et d'organisations chrétiennes. L'instabilité persistante dans la région pousse cependant de nombreuses familles à tenter de rejoindre l'Europe, l'Amérique ou l'Australie. Les chrétiens de Syrie sont également victimes de la guerre civile qui déchire le pays depuis 6 ans. Ils représentaient près de 5% de la population avant la guerre, avec une communauté estimée à 1 million de personnes. Plusieurs factions engagées dans la lutte contre les troupes de Bachar el-Assad les considèrent comme des soutiens du régime, qui se présente comme le défenseur des multiples minorités syriennes face aux rebelles djihadistes. Cette situation a conduit plusieurs centaines de milliers de chrétiens de Syrie à se réfugier dans les pays voisins, principalement au Liban. Le pays du Cèdre fait figure d'exception dans un contexte régional où les chrétiens, quand ils ne subissent pas des violences, souffrent de ségrégation ou de difficultés à pratiquer leur culte sereinement. La communauté chrétienne du Liban est estimée à 1,5 million de personnes, principalement maronites, grecques orthodoxes et arméniennes, soit 40% de la population totale. L'ancien général Michel Aoun a été désigné président de la République par le Parlement à la fin du mois d'octobre dernier, après plus de 2 ans de crise politique qui avait laissé vacant ce poste dévolu par la Constitution à un chrétien maronite. Cette élection d'un candidat réputé proche du parti chiite Hezbollah a été interprétée par de nombreux commentateurs comme le signe d'un raffermissement de l'emprise iranienne sur le Liban aux dépens de l'Arabie saoudite et du premier ministre sunnite Saad Hariri. Sur cette question, François Bujon de l'Étang.
Mais le problème des chrétiens d'Orient est un sujet douloureux et difficile. Je suis heureux que vous nous donniez l'occasion d'ailleurs d'avoir une pensée pour eux en ce dimanche de Pâques. Mais la situation des chrétiens d'Orient est une situation tragique et c'est une situation profondément émouvante. Mais une fois qu'on a dit cela, il devient beaucoup plus difficile de faire l'analyse du problème. Les communautés chrétiennes au Moyen-Orient et au Levant singulièrement sont très anciennement implantées, comme chacun le sait, et beaucoup d'entre elles sont plus anciennes en termes d'implantation que l'islam, finalement, et appartiennent, sont consubstantielles à cette terre d'Orient. Ça fait partie du tissu très complexe, ethnique et sociologique de l'Orient, et le fait de les voir disparaître ou de les voir fondre a quelque chose de très pathétique, parce qu'on a l'impression que c'est une partie de l'histoire, du patrimoine de cette terre d'Orient qui est en train de disparaître. Il est très difficile de généraliser le débat sur le thème des chrétiens d'Orient. Ce que l'on peut généraliser, c'est ce que nous venons de faire, c'est que, effectivement, ces communautés sont en train de disparaître ou de diminuer de façon dramatique et que plusieurs d'entre elles sont persécutées ou massacrées. Mais au fil des siècles, il y a eu beaucoup d'épisodes tragiques auxquels ont résisté ces communautés qui font preuve d'une très grande résilience, si vous la jugez sur le temps long de l'histoire. Les situations sont en réalité très très diverses. Vous avez des pays dans lesquels les chrétiens sont suffisamment nombreux pour former une espèce de masse critique, je dirais, qui leur donne un poids politique considérable. Alors c'est le cas du Liban, par exemple, puisqu'au Liban, non seulement ils représentent à peu près aujourd'hui 40% de la population libanaise, c'est à peu près l'ordre de grandeur que l'on peut retenir, mais en outre, il y a un système d'équilibre institutionnel au Liban qui distribue, en quelque sorte, les pouvoirs ou les postes de l'État en fonction de l'appartenance confessionnelle de leur titulaire. Le président de la République est chrétien, par exemple. Le premier ministre est sunnite, le président de l'Assemblée est chiite. Ça fait partie du pacte libanais sur lequel vit encore l'État malgré 15 ans de guerre civile. Alors, quand on est 40% de la population et que l'on représente une part importante de la richesse patrimonial du pays, on a le moyen d'exister et de survivre. Et d'ailleurs, les maronites libanais se sont organisés comme toutes les autres communautés. Ils ont leur propre milice, ils ont leurs propres revenus, ils ont leur propre existence. En Égypte, vous avez une situation différente, parce que en Égypte, la communauté copte est importante. Personne n'est d'ailleurs d'accord sur le nombre exact des coptes en Égypte. On dit à peu près 10% de la population. La population, aux dernières nouvelles, était de 92 millions d'habitants en Égypte, mais il n'y a probablement pas 10 millions de coptes, il y en a probablement moins, ou beaucoup disent qu'il y en a autour de 6 millions et demi ou 7 millions sans doute, mais c'est une population très importante, très ancienne, qui est bien installée avec ses églises, avec ses institutions communautaires, mais qui, dans les meilleurs moments de l'histoire égyptienne, était toujours considérée comme des citoyens de deuxième classe. Tout à fait extraordinaire. Il suffisait d'écouter Boutros Ghali, par exemple, sur ce sujet, pour comprendre qui était copte lui-même, pour comment comprendre quelqu'un d'aussi brillant et qui avait été un diplomate aussi brillant, menant carrière, ne pouvait pas devenir ministre des Affaires étrangères dans son pays, parce que le ministre des Affaires étrangères devait être un musulman et qu'un copte ne pouvait être que secrétaire d'État ou citoyen de deuxième classe. C'est très intéressant. Mais vous avez alors des pays dans lesquelles les communautés sont beaucoup moins nombreuses et beaucoup plus dispersées en plusieurs églises ou dispersées même géographiquement. C'est le cas de l'Irak, c'est le cas de la Syrie, par exemple. Alors, dans ces pays, les communautés chrétiennes ont été relativement bien préservées ou protégées par des États laïcs, lorsque les États étaient laïcs. C'est le cas de l'Irak de Saddam Hussein, par exemple. On oublie que Tariq Aziz, son ministre des Affaires étrangères, était un chrétien. C'est le cas de la Syrie, où les communautés chrétiennes, dans l'ensemble, ont été protégées par le régime alaouite, issu lui-même d'une minorité. Il ne faut pas l'oublier. Mais ce que craignent le plus, généralement, les communautés chrétiennes, c'est l'apparition de pouvoirs religieux, d'un pouvoir sunnite ou d'un pouvoir chiite, qui portent leur religion comme un étendard et qui, bien entendu, diminuent ces pays. Alors, en Irak, par exemple, on voit littéralement disparaître la communauté chrétienne. Vous avez rappelé les chiffres, Philippe, 1 million d'habitants avant l'invasion américaine de 2003, 300 000 sans doute aujourd'hui. Et on sait qu'en Irak, des communautés entières ont disparu. C'est le cas de la communauté juive, par exemple, qui était extrêmement importante dans le tissu irakien et qui a été expulsée, la valise ou le cercueil, en 1949, après l'apparition de l'État d'Israël. Donc la crainte existe que ces communautés ne disparaissent, et la grande question aujourd'hui, alors qu'elles sont ciblées par l'État islamique et par Daesh, est de savoir s'il y a encore un avenir pour les communautés chrétiennes au Moyen-Orient.
Lionel Zinsou.
Oui, je me soucie tout à fait à ce que vous venez de dire, François, sur la communion avec les communautés chrétiennes d'Orient, qui, en un jour de Pâques, est fondamentale, et communion et reconnaissance du fait que, à certains égards, comme ils l'ont dit en Égypte, les chrétiens vivent à martyr dans beaucoup de situations. Vous avez essayé de revenir aux causes en disant que c'était, cela étant, très complexe, très très ancien. L'idée de communauté chrétienne au pluriel, à un moment donné vous avez dit la communauté chrétienne, et puis ensuite les communautés chrétiennes, mais la diversité des communautés chrétiennes est considérable. Il est arrivé, et ça les a affaiblis dans certains pays, qu'elles soient en opposition assez forte, les unes contre les autres, puisque les patriarcats, pour les orthodoxes, les chrétiens orthodoxes, peuvent être autocéphales et à Antioche, peuvent être à Jérusalem, peuvent être à Athènes, peuvent être en Russie. Ces communautés ont reçu, en 1856, comme une des conséquences de la guerre de Crimée, déjà, le droit de s'organiser en communauté avec des privilèges économiques, un droit à s'organiser institutionnellement, à avoir des conseils élus, un droit à avoir des relations avec des protecteurs, qui était une réalité depuis les débuts de l'islam, mais d'avoir des protecteurs internationaux, des consuls représentant les puissances protectrices. Alors ce qui est extraordinaire, c'est qu'on voit vraiment le retour de cette situation des années du début des années 60 du 19e siècle, où on voit la Russie dire qu'elle est normalement, désormais, naturellement, le protecteur des communautés chrétiennes. Il faut comprendre de celles des communautés chrétiennes qui sont orthodoxes et reconnaissent le patriarcat de Moscou contre toutes les autres églises orthodoxes, lesquelles sont en rupture avec Rome ou en communion avec Rome, et les catholiques sont très différents, avec les influences protestantes, en partie liées à des intérêts politiques de puissance protestante, y compris depuis maintenant très longtemps des États-Unis. Et donc, ce sont des communautés qui sont probablement moins unies entre elles qu'il ne faudrait pour qu'elles puissent faire masse critique et se défendre contre des agressions. Par ailleurs, ce sont des communautés qui, par le niveau de revenus, le niveau d'éducation, le niveau d'échange avec l'étranger, puisque certaines de ces communautés de chrétiens d'Orient sont majoritairement à l'extérieur de l'Orient. Et nous avons la chance en Afrique d'avoir de très nombreuses communautés libanaises et syriennes. Il y a plus de chrétiens d'Orient en Afrique qu'en Orient. En Argentine, vous voyez des chrétiens libanais au pouvoir. C'est-à-dire, vous avez en Amérique latine une force considérable. C'est une force aussi de capitaux, c'est une force... Et ça donne des communautés qui sont souvent ont été en conflits sociaux, mais je dirais en conflits profanes avec leur environnement. Il y a une dimension qui est persécution religieuse, nationalisme arabe avec une certaine interprétation de l'islam, mais il y a aussi des sous-jacents sociaux. Et dans la montagne libanaise, je fais allusion aux guerres civiles, prenant la dernière guerre civile, mais depuis le 19e siècle, dans la montagne libanaise, vous avez des moments où des paysans chrétiens assassinent leurs propriétaires druzes et des moments où des paysans druzes se débarrassent dans des massacres des notables chrétiens. Enfin, vous avez des alternances comme ça de luttes qui sont en fait des conflits sociaux profonds. Vous avez des paradoxes démographiques. Au XIXe siècle, vous avez un envol, une affirmation des communautés chrétiennes d'Orient, parce qu'elles ont, outre le capital culturel, le capital financier, elles ont aussi une démographie qui l'emporte sur un étiolement démographique des communautés musulmanes. On commence à voir au XIXe siècle, et tout ça existe dans la mémoire, une espèce d'attrition de l'Orient musulman et de force très grande de ces communautés qui étaient en effet déjà plus nombreuses en effectif, mais surtout qui avaient une force démographique qui leur donnait de plus en plus d'importance. Et aujourd'hui, c'est l'inverse. La démographie différentielle est au bénéfice de populations qui ne sont pas celles des chrétiens d'Orient. Donc vous avez des mouvements très profonds dans l'histoire avec toute une série de dimensions démographiques, économiques et financières, sociales donc, et profane et une manipulation permanente des grandes puissances. La dernière, c'est vraiment Vladimir Poutine protégeant tous les chrétiens au nom d'une espèce de filiation religieuse et de mouvements de population venus de Russie, venus du Caucase, etc., qui sont une infime minorité des chrétiens d'Orient. Et la France, parfois, d'ailleurs c'est entré dans la campagne électorale, se donne aussi de temps en temps un rôle fantasmé de protecteur des chrétiens d'Orient au nom de quelque chose qui n'est quand même que relativement fragmentaire et où toutes les puissances ont joué leur jeu. Et voilà, cela étant, aujourd'hui est plutôt un jour de communion et de compassion, et l'Égypte d'ailleurs échappe un peu à ces analyses, puisque c'est là une masse critique de population très importante, et c'est là une grande communauté est beaucoup moins éclatée que en Syrie, enfin disons en Assyrie, en Syrie et en Irak.
Nicolas Pavrès.
Bien sûr, je rejoins les témoignages de à la fois de sympathie, de compassion et puis de solidarité avec ces chrétiens d'Orient qui vivent une nouvelle tragédie. Le grand écart, on l'a dit, c'est une histoire qui est une histoire extraordinaire parce que le poids de Rome fait qu'on a oublié que le christianisme des origines est un christianisme d'Orient et que au départ, avec la figure de Paul, c'est bien autour de Jérusalem, d'Alexandrie, d'Antioche que les communautés chrétiennes vont se constituer aux marges de l'Empire romain avant que Constantin ne fasse du catholicisme la religion officielle, mais ça, il faudra attendre 391. Aujourd'hui, c'est vrai que ces communautés sont extrêmement fragiles, on l'a dit, d'abord parce qu'elles ont été réprimées par la violence, par les discriminations, parce qu'il reste entre 10 et 15 millions de chrétiens dans cette zone où on trouve plus de 300 millions de musulmans. Et puis aussi, ça a été rappelé par la grande diversité. Plus d'une dizaine d'églises différentes avec qui s'expliquent, se comprennent par les conciles d'Éphèse, de Chalcédoine, dont seuls les théologiens aujourd'hui ont encore la mémoire chez nous. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe un grand mouvement historique qui est effectivement leur lente disparition qui s'est considérablement accélérée à partir du 20e siècle sous l'effet du nationalisme arabe. Dans l'Empire ottoman, il y avait encore un habitant sur quatre qui était chrétien au début du 20e siècle. C'était tout à fait considérable. Aujourd'hui, comme on l'a dit, il reste 10 à 15 millions de chrétiens et il reste finalement trois grands pôles où il y a suffisamment de capital politique, économique, culturel pour assurer la survie de ces communautés. L'Égypte, ça a été dit avec les Coptes, le Liban et puis l'Arménie. Ce sont ces trois grands... les trois vrais pôles qui subsistent. Pour le reste, c'est vrai qu'en Syrie et en Irak, les chrétiens sont en train d'être éradiqués. Alors, le changement qui se passe, et qui est un changement concret, c'est évidemment le surgissement de l'État islamique et ce qui se passe depuis l'effondrement de l'Union soviétique. C'est-à-dire que les idéologies du XXe siècle ont disparu, mais aujourd'hui, on voit ressurgir les deux grandes passions. Tocqueville disait que c'était les passions politiques les plus puissantes, c'est-à-dire le nationalisme et la religion. Donc on a, et ces communautés sont finalement prises en tenaille entre ces deux grandes forces. D'un côté, les dictateurs laïcs leur avaient ménagé une place et aujourd'hui, finalement, il y a d'un côté de la tenaille le personnage de Bachar al-Assad ou le maréchal al-Sissi, et de l'autre côté, on trouve le fanatisme religieux, soit avec l'État islamique d'un côté, soit avec les chiites de l'autre, même si l'Iran tolère la communauté, notamment les Arméniens, qui sont une minorité importante en Iran, à condition qu'il n'y ait pas de conversion. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est que l'État islamique étant mis sous pression en Syrie et en Irak, est en train de se redéployer dans deux directions. L'Afrique, avec comme cible l'Égypte, parce que c'est un enjeu démographique extrêmement important. Et ensuite, évidemment, le Sahel, et on va jusqu'au Nigeria avec Boko Haram. Et de l'autre côté, l'Europe, avec la multiplication récente des attentats, et avec une forme de une nouvelle mutation, une organisation sous forme de réseau social terroriste. Donc, le problème de ces communautés, c'est qu'elles sont exactement au point de confluence des deux forces qui s'affrontent et qu'elles sont prises donc en tenaille entre, d'un côté, ces dictateurs laïcs qui essayent de se survivre et, de l'autre côté, la poussée de l'islam radical.
François Bujon de Béton.
Oui, je crois que tout cela est exact, en effet. Je voudrais revenir sur un point qui a été évoqué par Lionel Zinzou rapidement, c'est celui de l'intervention des puissances étrangères, au fond, avec la référence au XIXe siècle et l'idée que je crois juste, en effet, d'un certain retour de certaines de ces pratiques aujourd'hui, ce qui est paradoxal. La Russie en donne l'exemple. La Russie a une politique qui consiste à revenir au Moyen-Orient, à redevenir une grande puissance et à jouer à la fois de sa puissance militaire et de son soft power. Alors, le patriarcat de Moscou, c'est effectivement l'expression la plus visible du soft power et la façon dont la Russie de M. Poutine joue la carte de l'orthodoxie pour revenir en effet au Moyen-Orient, non seulement sous la forme militaire que l'on voit en Syrie, mais sous la forme de l'influence religieuse que l'on voit à travers le patriarcat de Moscou, est tout à fait intéressante. Et en se posant en protectrice des chrétiens d'Orient, elle prend au fond un peu la place de la France, si je puis dire, puisque on ne l'a pas suffisamment dit, sinon par allusion, mais la France pendant longtemps a été toujours considérée comme la protectrice des chrétiens d'Orient. Tout le monde connaît cette longue histoire, ça remonte à François Ier, à Soleiman le Magnifique, au traité des capitulations, mais à beaucoup d'autres choses, à l'influence des communautés religieuses françaises au Levant, qui ont joué un rôle tout à fait important, au Levant et en Égypte. Et la France ne joue plus du tout ce rôle aujourd'hui. On l'a vu encore, sans remonter à François Ier, beaucoup plus récemment, sous la Troisième République, à l'époque de Sykes-Picot, à l'époque du mandat sur la Syrie et le Liban, la France a joué un rôle particulier. La France était, par exemple, l'interlocutrice traditionnelle des communautés maronites au Liban. Et la France a été emportée par son élan historique, je dirais, en jouant ce rôle encore dans des temps assez récents, finalement. Aujourd'hui, il n'en est plus question. Plus personne en France n'évoque, à part quelques personnalités, quelques individualités, la vocation de la France à être la protectrice des chrétiens d'Orient. Pourquoi ? Peut-être parce que il y a eu un glissement au sein de la conception du rôle de la France en politique étrangère, de la notion de chrétienté qui a été abandonnée du fait sans doute de la laïcité en faveur de la notion des droits de l'homme. et que la France aujourd'hui préfère se poser en défenseur des droits de l'homme, d'une façon générale, à l'étranger, plutôt que d'apparaître comme la protectrice de communautés qui se définissent par leur caractère religieux.
Je vous remercie. Je vous propose que nous entrions maintenant dans notre dernière séquence, la séquence des brèves. Lionel Zinsou, que nous recommandez-vous ?
Je recommanderais volontiers une lecture passionnante d'un livre d'Olivier Grenouillot, qui est un chercheur spécialisé sur les questions de l'esclavage, de la traite, de leurs abolitions, et qui publie à la Bibliothèque des Histoires chez Gallimard une révolution abolitionniste qui, au fond, les abolitionnistes ne sont pas les seuls à avoir conduit le combat contre l'esclavage. Les esclaves eux-mêmes ont, par leur résistance, créé toute une culture et une civilisation, en réalité. Et évidemment, ont conduit des luttes d'émancipation exceptionnelles. Rappeler le souvenir, le contexte des bases idéologiques et religieux, d'ailleurs, sur l'esclavage, les complexités de quelque chose qui n'avait pas été rejeté par les églises, par les religions, avec lesquelles il a fallu développer une casuistique savante pour arriver à savoir si les esclaves avaient des âmes, s'ils étaient des hommes ou s'ils étaient des meubles. Puisqu'au fond, l'abolition, c'est l'abolition d'un droit, le code noir dans les colonies françaises, dans lequel on peut vendre librement des esclaves parce qu'ils ne sont pas des êtres humains, mais des biens meubles. Bon, et au fond, c'est rappeler toutes ces thématiques. Aujourd'hui, la mémoire de cette question de l'esclavage est très vivante. Ce livre l'exprime très bien.
François Bujon de l'Étang.
Ouais, dans cette dernière ligne droite de la campagne présidentielle française, je pense que il est utile de se pencher sur le livre d'Alain Duhamel, Les pathologies politiques françaises, qui a été publié en décembre dernier, si ma mémoire est bonne, aux éditions Plomb. Alain Duhamel, en médecin de famille, se penche un petit peu sur les pathologies de notre société française. Il en fait le diagnostic et il les recense de façon amusante. D'ailleurs, la table des matières de son livre en est un recensement. L'inconstance, le déclinisme, l'égalitarisme, le nationalisme, le conservatisme, l'extrémisme, l'intellectualisme et tout compte fait, la discorde.
Merci, Nicolas Bavrez.
On parlait des chrétiens d'Orient et de la situation du début du XXe siècle. Je voulais proposer de revenir à un auteur oublié qui est Pierre Loti et à ses découvertes d'Istanbul, mais aussi à son voyage en Iran vers Ispahan. Et il raconte très bien la situation de cette région à l'époque et ce sont des souvenirs passionnants.
Merci beaucoup. Moi, je recommanderais le livre de Georgette Elger dont Michael Avigel avait signalé la parution, mais elle n'a pas encore eu le temps de le lire. Ça appelle toutes fenêtres ouvertes. Georgette Elger est cette historienne extraordinairement méticuleuse et en même temps qui sait rendre vivant toutes les matières dont elle traite, en l'occurrence plus particulièrement celle de la 4e République avec laquelle elle n'en a fini qu'il y a quelques années. Elle raconte là quelque chose qui est à la fois son histoire personnelle, l'histoire d'une fille que son père n'a pas reconnue et du combat de sa famille pour qu'elle soit reconnue par son père et l'histoire de la réconciliation avec cette famille et en même temps l'histoire de l'époque dans laquelle tout cela se passe. Et puis j'ajoute un mot sur un film que j'ai trouvé très remarquable parce que c'est un sujet très difficile, c'est Passion, le film Le Grand Corps Malade. C'est très difficile de parler du handicap sans larmoyer, c'est très difficile de parler du handicap sans faire son intéressant à son propos, c'est très difficile de parler des choses avec justesse. Et c'est exactement le cas de ce film dont je vois d'ailleurs que le succès est tout à fait important. Vous avez maintenant rendez-vous avec Alain Kruger pour On ne parle pas la bouche pleine, puisque c'est le dimanche de Pâques, l'avons-nous assez répété. Son émission s'intitule Résurrection de la Terre, une seule solution, l'agro-révolution. Et Alain Kruger reçoit un agronome et un expert auprès de la FAO, Marc Dufumier. C'était L'Esprit public, une émission de Philippe Meyer, réalisée par Luc-Jean Reynaud, préparée avec Augustin Bernard Roudex et Mathilde Cadreau, avec aujourd'hui à la technique Pierre Monteil. Nous espérons vivement vous retrouver la semaine prochaine, à la même heure, sur cette même chaîne, pour une nouvelle édition de L'Esprit public, à laquelle vous voudrez bien prêter une oreille avant, après, ou peut-être même pendant que vous irez voter, si toutefois telle est votre décision.